Top Music.
Top Music entre deux. Le podcast de la SIG Strasbourg.
Entre deux, le podcast de la SIG Strasbourg, épisode 2, et notre invité aujourd'hui, on va le présenter, il s'agit de Boris Diaw. J'ai beaucoup bossé, j'ai pris ma feuille Wikipédia, donc Boris Diaw, né...
Tu t'es trompé là, c'est Boris Diaw. Hein.
Tu me laisses parler peut-être. Boris Diaw, né le 6 avril 1982.
12 mars 94, à Nantes.
Pourquoi t'es pas Boris Diaw?
Non, Boris Diaw c'est celui qui gère le Valois, tu sais, l'équipe qui nous a battu la semaine dernière.
Bon, ben, entre deux épisodes 2, c'est parti! Et vous l'avez compris, après ce magnifique sketch totalement improvisé que nous envie déjà Jimmy Fallon aux États-Unis, notre invité c'est évidemment Boris Diaw. Salut Boris!
Salut.
Au-delà de la petite pitrerie, est-ce que des gens t'ont déjà confondu justement avec Boris Diaw, avec ce prénom et puis un nom de famille assez proche?
Ouais, c'est proche, mais non, j'ai pas eu affaire à ça, donc pour l'instant ça va, je m'en sors bien.
Tu t'en sors bon. Ceci dit, il y a pire comparaison.
Ouais, c'est
il y a
vrai,
pire comparaison.
Vrai.
Durant ce podcast, on va évidemment parler de la SIG Strasbourg, on va parler beaucoup de toi, Boris Diaw, effectivement né le 12 mars 1994
c'est ça,
à Nantes, papa ivoirien, maman réunionnaise, j'imagine un beau mélange de culture à la maison, un beau mélange musical, un beau mélange dans l'assiette, très certainement.
Ouais, c'est ça, bah, plus particulièrement dans l'assiette, ouais, c'est vrai que... Il y a pas mal de plats différents qui sont faits à la maison, donc c'est vrai que quand je retourne à la maison, je suis bien servi. Ouais.
Et maman, papa, ils savent, Boris rentre, on sait ce qu'on doit lui faire, il y a le plat préféré.
Ouais, c'est ça. Et ma mère, elle sait qu'en général, c'est un plat qui s'appelle rougail saucisse,
ouais.
Avec un peu de grain sur le côté, donc quand je rentre à la maison, je sais que c'est prêt. Et souvent, mon père, il me fait un plat à base d'arachide. De la sauce arachide avec des légumes, du riz. Et, en général, ça dépend de la viande, du poulet, un peu du bœuf. Hein. Ça dépend.
Et il y a un souvenir d'enfance qui revient immédiatement avec les effluves.
C'est ça.
L'enfance de Boris Diaw à Nantes, c'était quoi? C'est une enfance qui est allée rapidement vers le basket?
Ouais, on va dire. J'ai commencé à 7-8 ans. En fait, le hasard a fait les bonnes choses. Mon voisin, c'était l'un des présidents du club de l'Armine de Nantes, enfin des dirigeants du club amateur. Et à l'époque, il était éducateur sportif et il m'avait proposé de venir faire un entraînement parce qu'il me voyait jouer au basket dans la cour avec mes grands frères. Et après, j'ai tout de suite accroché. Donc voilà, c'est là que ça a commencé.
Le basket t'a happé donc très très jeune.
Ouais, c'est ça.
Très très jeune. Tes grands frères, ils jouent toujours au basket?
Non, ils ont arrêté, ils ont joué avant. Ils étaient dans les petits clubs à côté de Nantes. Ils étaient pas mal, ils devaient rentrer en centre de formation à Cholet à l'époque, quand c'était vraiment bien, mais ils ont préféré continuer leurs études.
Et quel regard ils portent sur le petit frère qui a réussi cette carrière que peut-être eux auraient aimé faire?
Ils sont fiers. Après, c'est vrai que ils vivent un peu par procuration, on va dire. Et ça leur fait vraiment plaisir de me voir maintenant faire ce que je fais.
Ce que tu fais, c'est aussi une carrière très particulière par rapport à la carrière habituelle des joueurs de basket.
Ouais,
tu as dit avoir débuté à l'Armine de Nantes, tu es allé ensuite au Centre Fédéral.
Ouais.
Jusque-là, c'est une carrière à peu près normale, à peu près habituelle plutôt. Ensuite, il y a Antibes. Il y a Poitiers, tu arrives en 2012, au moment où Evan Fournier s'en va.
Ouais, voilà, c'est ça. Evan part, il draft en NBA, à Denver, et du coup j'ai décidé de signer à Poitiers parce que j'avais dans la tête en sortant du centre fédéral que je pouvais apporter quelque chose à une équipe professionnelle directement en Pro A. À l'époque c'était la Pro A, donc j'avais choisi Poitiers, j'avais pas mal de clubs dont Strasbourg qui était intéressé, donc j'ai fait le choix d'aller à Poitiers.
Et puis Strasbourg, justement, il me semble qu'il y a eu des essais vers 2014 en même temps que même j'ai été.
Non, c'était en
2012 déjà.
À la sortie de l'INSEP. En fait, ils organisent des visites dans les clubs qui sont intéressés et qui postulent en fait pour chaque joueur. Et donc j'étais venu avec Mam Jaité, on avait fait un entraînement avec à l'époque il y avait Axel Touban.
Exact.
Un bon pote à moi, donc Vincent nous avait fait un entraînement, c'était très bien passé. Mais voilà, après Strasbourg avait une grosse équipe et ils m'avaient proposé de jouer plus en espoir qu'en professionnel et vraiment de m'entraîner avec les pros. Et j'étais déjà dans l'optique d'intégrer un groupe professionnel complètement et pouvoir avoir l'opportunité de jouer. Donc j'ai décidé de passer.
Et après Poitiers, là, tu vas chez un très grand d'Europe pendant deux saisons, le Partizan Belgrade. Ouais, retrouves entre autres Geoffrey Lauvergne et Léo Westermann. Cette expérience en Yougoslavie, c'est. Après les États-Unis, c'est la deuxième mecque du basket d'une certaine
c'est
façon.
C'est ça, on va dire que c'est un peu le berceau du basket. La Serbie, c'est une religion le basket là-bas, donc c'est vrai que j'ai appris pas mal de choses sur et en dehors du terrain, et ça m'a fait grandir un peu plus vite que la plupart des jeunes joueurs, ouais, c'est vrai.
Et en plus, tu parles désormais couramment serbe, m'a-t-on dit.
Ouais, c'est ça, je parle couramment serbe. Bah, avec Trumo, notre assistant, j'ai la possibilité de parler avec lui en serbe. J'ai appris là-bas en quelques mois, donc je m'en sers.
Une facilité pour les langues, semble-t-il, d'ailleurs, chez toi.
C'est ça.
Parce qu'il y a aussi le grec, on va parler un petit peu de la Grèce plus tard, mais tu parles serbe, grec, anglais, français.
Ouais, grec encore, ça va, je le comprends. Après, le parler, c'est un peu plus difficile, mais bon, j'ai quelques bases. Mais ouais, anglais, ouais, je le parle couramment, français aussi.
Et français, heureusement d'ailleurs. Ce serait con pour un français d'être plus doué dans les autres langues, hein, n'est-ce pas? Et d'autres langues encore que tu parles?
On va dire que l'espagnol, je le parle correctement. Je l'écris bien, je le parle correctement. Après, j'ai la langue de chez ma mère, moi, j'ai le créole, donc je sais pas si ça compte, mais ouais, pas mal de langues.
C'est vrai que le créole est un creuset de plusieurs langues différentes. C'est ça, hein, c'est ça. Tout à fait. Alors, l'ex-Yougoslavie, la Serbie, le Partizan Belgrade, raconte-nous un peu le quotidien dans un aussi grand club, dans un club aussi mythique.
Ouais, quotidien difficile, on va dire. On appelle ça les tranchées, un peu, dans le jargon du basket, parce qu'on travaille beaucoup. C'est des entraînements par un jour, c'est du 6 heures. Ça veut dire qu'en gros, le matin, on bosse physiquement et individuellement, et le soir, on bosse collectivement. C'est très dur mentalement, on va dire. Et en fait, le coach, il fait en sorte de te pousser dans tes retranchements pour pouvoir tirer le meilleur de toi-même. Donc, c'est une culture différente qui n'est pas forcément adaptable avec tout le monde. Donc, on avait un effectif très jeune et très talentueux, donc ça marche avec nous. Après, le coach, il est venu à Limoges et ça n'a pas forcément marché. Donc, ça dépend des cultures et des endroits d'où il est. Mais ouais, la culture de l'Est, c'est une culture très dure, on va dire.
Et au niveau des supporters, ça se passe comment? On sait que en Serbie, en Croatie, en Slovénie, ils sont plus que passionnés.
Ouais, c'est pas des supporters, c'est des fans, ils sont fanatiques. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir jouer devant une ferveur comme ça. Mais quand on joue à l'extérieur, c'est une ambiance assez hostile. Donc ça aussi, ça te fait progresser dans le mental. Comment gérer la pression, comment gérer si les provocations, si ça. Et faire abstraction de ce qu'il y a à l'extérieur pour pouvoir te concentrer sur ce qu'il y a sur le terrain.
Oui, du coup, en Jeep Elite, quand il y a quelques sifflets à l'extérieur lorsque tu dois prendre un lancer franc décisif, finalement, ça te passe un petit peu au-dessus. À ce niveau-là, t'es plutôt tranquille.
Plus trop attention. Ouais.
Après ces épisodes à Poitiers puis aux Partisans, c'est déjà la Ligue de développement américaine ou c'est d'abord ça. La Grèce? Non, d'abord les États-Unis.
Non, après le Partisan, je reviens en Jeep.
Tu reviens, je reviens en Jeep
chez les Sharks pendant un an. Donc c'était ma dernière année pour pouvoir éventuellement être drafté, donc j'avais décidé de revenir en France pour pouvoir avoir un rôle convenable et pouvoir me montrer. Donc je suis revenu, ça s'est passé moyennement, on va dire. Mais au final, j'ai eu le temps de jeu souhaité, on va dire. Donc j'aurais pu apporter plus, mais j'ai fait avec ce qu'on m'avait donné. Et voilà, j'en retire vraiment du positif.
Et ensuite, donc, les États-Unis. Alors, ce n'est pas la NBA, mais la Ligue de développement, les Long Island Nets, qui appartiennent très certainement aux Brooklyn Nets, vu le nom. Sachant que ces équipes de développement appartiennent parfois à une seule formation NBA, parfois à plusieurs franchises en même temps.
Ouais, c'est ça.
Et comment se retrouve-t-on dans cette ligue de développement qui est très méconnue en Europe?
Bah, on va dire que c'est méconnu pour les gens en général qui suivent le basket par-ci, par-là. Mais les gens qui connaissent vraiment les rouages et dans notre sport, ils connaissent vraiment la ligue de développement parce que la plupart des joueurs qui sont borderline NBA, on va dire, qui sont entre pouvoir jouer en NBA et pas avoir la possibilité de jouer par rapport à l'effectif ou quelques problèmes, et bah passe par la ligue de développement pour pouvoir avoir des responsabilités. C'est une ligue assez particulière parce que c'est une culture différente, c'est toutes les règles, c'est les règles NBA. Donc c'est un peu on va appeler ça l'antichambre. C'est l'antichambre, donc il y a 50 matchs en 4 mois.
Pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Il y a pas mal de
débats. C'est un rythme quasi NBA.
Ouais, c'est un rythme NBA. Et moi, à l'époque, quand j'étais parti à Brooklyn, c'était la première année de la franchise. Et on était dans les infrastructures NBA parce qu'ils n'avaient pas encore construit le stade.
Ça, c'est cool quand même.
Ouais,
ça, c'est cool. Donc, le fameux Barclays Center.
C'est ça. Bah, j'habitais juste au-dessus du Barclays Center. On jouait entre guillemets en levée de rideau de l'équipe NBA et puis on utilisait les structures d'entraînement des Brooklyn Nets, donc c'était vraiment pas mal.
Ça te permettait de côtoyer aussi les joueurs de la formation NBA.
On a côtoyé pas mal de gars et Brooklyn avait des liens très très étroits avec les Atlanta Hawks parce que le coach Kenny Atkinson était assistant je crois à l'époque. Il y a pas mal de joueurs des Hawks qui venaient faire les allers-retours avec nous.
Quels joueurs t'ont marqué durant cette période?
Déjà, il y avait Torian Prince qui est venu jouer avec nous pendant quelques mois, qui était vraiment pas mal, et qui maintenant a signé à Brooklyn, donc ça ne m'a pas forcément étonné. Il y avait Max Scott aussi qui était venu jouer avec nous, qui joue aux Sixers. Après... il y a pas mal de joueurs qui étaient bons individuellement, mais il y a pas mal de joueurs qui comprennent pas forcément qu'on va pas aller en NBA en marquant 40 points. Parce qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent mettre 40 points dans cette ligue.
Et c'est un peu le souci d'ailleurs de cette ligue de développement. On a l'impression que c'est un peu, passe-moi l'expression, chacun pour sa gueule.
Ouais, c'est ça. C'est ça, mais il faut en fait comprendre qu'il faut se mettre dans une mentalité où une équipe a besoin de quelqu'un, un spécialiste. Les scoreurs, ils les ont déjà. Les scoreurs, ils sont déjà NBA. Donc, il faut se mettre dans une optique différente, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut apporter quelque chose d'autre, la défense, du rebond, de la passe, ou du jeu sans ballon. Dans un compartiment, il faut être un spécialiste et exceller là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'Axel...
J'allais le dire, Axel avec sa défense.
C'est ça, et puis il était dans une équipe qui gagnait, donc forcément ça aide. Après, il y avait Briante Weber, que j'ai croisé pas mal, avec qui j'ai des bons liens avec lui, parce que c'était l'un des seuls joueurs avec moi qui était proche du triple-double à chaque match. Il y a vraiment beaucoup de talent en D-League, et si on regarde vraiment, il y a vraiment pas mal de talent.
Et à l'époque, l'un des patrons des Nets, c'était Jay-Z, tu l'as croisé? T'as croisé Beyoncé?
Non,
t'as
non,
checké avec eux?
Non, même pas. J'ai croisé pas mal d'exécutifs de l'organisation, mais non, j'ai pas croisé... je suis allé jusqu'au général manager.
Mais bon, ce qui est pas mal du tout, quand même.
On le voyait souvent, parce qu'il nous scoutait aussi. Mais non, j'ai pas vu le président, l'actionnaire russe ou Jay-Z ou Beyoncé. Hein.
Et cette période, tu en tires quel bilan? Il y a un peu de frustration de te dire, j'étais au port de la NBA et puis il m'a manqué ce petit truc.
Ouais, non, que du positif. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas mal dans notre sport, il y a pas mal de politique. Donc je l'ai compris très vite. Et je me suis dit que j'étais vraiment à deux doigts d'avoir un call-up, comme on dit. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup progressé individuellement. Parce que 50 matchs, c'est beaucoup.
Oui.
Il y a rien qui peut remplacer le stress de match. On peut s'entraîner autant qu'on veut. Il faut jouer. Donc 50 matchs en 5 mois, c'est tout bénef. Après, j'aurais voulu peut-être avoir l'opportunité d'avoir un contrat de 10 jours ou quoi, mais vraiment que du positif.
Que du positif. Ouais. Et puis alors ensuite, on sent que tu as fait un peu les temples du basket, puisque là, tu te retrouves en Grèce, à Panionios,
ouais,
c'est bien ça. Alors là, la Grèce, ce sont parmi les supporters les plus fous au monde.
Ouais, c'est ça.
Je pense que tu dois avoir mille et une anecdotes.
Panionios, on va dire que c'est un ancien gros club. C'était un gros club historique. Avec pas mal de supporters aussi. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai fait autant de matchs à huis clos.
D'accord.
Parce que les supporters, on va dire qu'ils étaient un peu hors de contrôle. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de matchs à huis clos. Et vraiment, c'est une culture différente. Mais je pense que ça se ressent maintenant dans ma manière de jouer. Parce que la Grèce, c'est aussi un pays basket. Avec le Pana, l'Olympiakos, l'AEK, le PAOK, la RIS, même Panionios avant.
Tout à fait, oui. Tout à fait. Dans les années 90, Panionios, c'était un très, très, très grand club.
Je crois qu'il y a Laurent Sierra qui est passé là-bas.
Oui, alors Laurent Sierra avait une anecdote. On va voir si tu me la confirmes. C'est que, de temps en temps, comme tout le monde, il allait au restaurant. Et puis là, en plein milieu du repas, un des exécutifs du club venait avec une grosse enveloppe. Tiens, c'est ton dernier mois de salaire. Tiens, vas-y, prends-le.
C'est vrai qu'en Grèce, il y a déjà des soucis de paiement. Et les paiements, ils ne sont pas forcément en franc, comme en France ou en Allemagne, ou dans les clubs qui sont assez structurés, dans les ligues qui sont assez structurées, des fois c'est cash dans une enveloppe. Donc c'est vrai qu'au début ça surprend, mais après quand on a l'habitude, on fait pas forcément attention.
Et puis on a le soleil, on a la mer, on a la nourriture crétoise, on est heureux.
Franchement, il fait bon vivre, c'est vrai que c'est plus facile d'aller entre guillemets au boulot, même si c'est pas forcément perçu comme ça quand il fait beau. Et il fait bon vivre, les gens aiment beaucoup le café là-bas, donc les gens sont très relax. C'est un peu comme à Marseille, un peu une ambiance un peu relax.